Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio-Télévision Suisse.
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone. Il y a des personnages qui rêvent, des auteurs qui rêvent avec leurs personnages et des lecteurs qui rêvent avec des auteurs. Il y a un livre qui nous a fait rêver dans notre équipe. Un livre comme on en trouve tous les 3 ans. Un roman tout simple a priori avec un titre bizarre, mais avec une fabuleuse histoire inspirée du réel. Un livre que tout le monde pourra lire. Un personnage qui nous emmène dans son rêve et ses illusions. Mahamat Saleh Haroun nous a fait rêver avec les curés. C'est le livre de l'année et je pèse mes mots. Voici le sommaire de cette édition.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Nous serons donc avec l'écrivain et cinéaste franco-tchadien Mahamat Saleh Haroun qui raconte l'histoire vraie d'un jeune nageur amateur, un nageur africain contraint de participer aux Jeux Olympiques, un roman fabuleux, coup de cœur de notre rédaction. Nous irons dans une forêt québécoise pour un entretien reportage avec Gabriel Filtoshiba pour un roman militant sur l'homme et la nature. Laurent Godet, le grand Laurent Godet, est sur notre plateau avec un recueil de monologues qui évoque le mensonge et la transformation possible de nos vies. Et puis un reportage surprise à la fin de l'émission avec Charlotte Rampling et Dany Laferrière au musée Grévin. Les libraires sont avec nous comme chaque semaine, ils interviendront tout au long de cette émission. Bonjour Josiane Letourneau.
Bonjour Emmanuel.
Vous représentez le Canada dans la librairie du Square à Montréal, tout va bien ?
Ça va bien et vous ?
Ouais, parfait, tout est parfait. En Suisse, on retrouve Dominique Bressoux de la librairie Une Petite Prose à Boudry. C'est la comtesse de Boudry. Bonjour Dominique.
Bonjour Emmanuel.
On a trouvé ça juste avant l'émission, je trouvais que ça collait bien avec votre personnage.
Ben voyons.
Bonjour Thomas Hausser.
Bonjour Emmanuel.
Vous représentez la France, vous Thomas, vous êtes libraire à Puteau dans la librairie Lamandier. Comment allez-vous ?
Eh ben, ça va plutôt bien.
Voilà, c'est la blague récurrente. On va arrêter un jour, mais pour l'instant, ça nous plaît. Hein, Laurent Godet, ça vous va, ce genre de blague?
Très bien, moi.
Bonjour, Déborah Damblon.
Bonjour, Emmanuel.
Vous êtes libraire en Belgique, dans la librairie Le Public par Filigrane. Alors, figurez-vous qu'on a eu des auditeurs belges qui ont essayé de faire le plutôt bien avec Bruxelles aussi, mais ça marche pas, on trouve pas. Vous allez nous raconter une anecdote de libraire en ce début d'émission, Déborah.
Mais oui, parce que la Saint-Valentin approche, alors je vous raconte une anecdote de Saint-Valentin.
Super.
Donc, écoutez, vous connaissez les marrons, les cœurs de Saint-Valentin, enfin bon, c'est ça aussi la librairie. Donc il y a quelques années, une de mes collègues avait fait une très très jolie vitrine de Saint-Valentin, avec de la poésie gentiment érotique, des livres d'art, enfin des choses comme ça très très jolies. Ouais. Et puis le jour J, dans l'après-midi, il y avait des tas de trous, et pour les camoufler, une autre collègue qui faisait moins jolie, elle met au milieu du tas le sexe pour les nuls qu'on avait reçu en office sauvage. Bon, voilà, ça c'est le contexte, il est posé.
Allez-y, oui.
Arrive la fin de la journée et quelques minutes avant de fermer, un charmant jeune homme entre et me demande de lui emballer le dit livre. Et pendant que je m'exécute, il finit par me demander timidement si je pense qu'en fait ça serait mieux qu'il offre des fleurs. Mmh. Alors, vous connaissez ma grande âme, je lui ai dit oui. J'ai perdu à peu près une vente de 25 euros, mais peut-être que j'ai sauvé un couple.
Ouais, c'est très maladroit. Vous avez bien fait. Bon, merci.
Alors, merci Emmanuel.
Merci beaucoup pour cette histoire, Déborah. Vous aimez Bob Marley, Déborah ? Vous avez dû écouter Bob Marley quand vous étiez toute jeune.
J'ai beaucoup écouté Bob Marley. J'écoute encore Bob Marley.
Allons-y.
Je suis toujours toute jeune, Emmanuel.
Et bonjour Mahamat Saleh Haroun.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur cette musique de Bob Marley que vous citez dans votre roman Les Curés Reptiles, un titre qui illustre bien cette histoire incroyable dont nous allons parler. Un mot sur vous tout d'abord, c'est votre deuxième roman, mais vous êtes connu du public et des cinéphiles par vos films, dont certains ont été primés à Venise et au Festival de Cannes. Le dernier, Lingui, Les Liens Sacrés, était même en lice pour la Palme d'Or. Vous avez été aussi ministre du Tourisme et de la Culture au Tchad en 2017, un an seulement. La politique, c'était pas pour vous
Non, non, c'est pas vraiment pour moi. Je l'ai découvert à mes dépens, donc je suis parti.
Pourquoi vite. Vous avez accepté alors ?
Parce que naïvement, j'ai cru que on pouvait, je ne suis pas le seul, qu'on pouvait changer les choses de l'intérieur. Mmh. En réalité, dans toute société, quand on est minoritaire, même dans les sociétés non démocratiques, il y a en fait évidemment quelque chose qui ne fonctionne pas quand on est minoritaire.
Alors dans votre roman L'écureuil reptile, il est beaucoup question de politique. Cette politique qui gangrène un pays d'Afrique où se déroule votre histoire, vous ne le nommez pas. Les jeunes d'un quartier populaire en ont ras-le-bol. Ils se révoltent, mais ça tourne mal.
Ça tourne très mal, oui, parce que la garde présidentielle n'hésite pas à tirer. Et c'est des gens qui vivent un peu dans l'obscurité, des coupures d'électricité tout le temps, pas d'eau. Enfin, c'est vraiment une espèce de pandémie comme ça où... La vie est très très difficile, d'autant plus qu'ils appartiennent un peu à la même ethnie, c'est les marginalisés en fait du système.
Ouais, c'est ça.
Et ils essayent de se faire entendre, ils rêvent tout simplement de causer dans le poste en fait. Mmh. Voilà, qu'on entende leur douleur, ils ont l'impression que personne ne les entend.
Et on leur tend aucun micro et on ne les écoute pas. Il y a une bande que vous nommez les culs reptiles. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui l'avez inventée ou si elle existe vraiment. Ce sont des immobiles, adeptes de la contemplation, qui avaient, je cite, « érigé la glandouille en art de vivre ».
Oui, c'est moi qui l'ai inventé, parce que au Tchad, il est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien être devant chez eux, qui papotent et qui observent et qui critiquent en fait, qui sont vraiment des gens qui sont de mauvaise langue et qui voient passer les grosses bagnoles, les autorités, les notabilités et qui critiquent en fait et qui attendent, qui espèrent qu'un jour tout ça va changer. C'est un spectacle qui ne leur plaît pas. Mais alors, j'ai voulu en parler un peu parce que...
Alors il y a beaucoup de passages sur les culs reptiles. Il y en a un qu'on va faire lire par Laurent Godet. C'est une surprise pour vous, Mahamat Saleh Haroun. On va envoyer une musique congolaise, de la rumba congolaise, parce que vous citez aussi cette musique-là. Et Laurent Godet, bonjour.
Bonjour.
Vous avez accepté avec grande gentillesse, comme d'habitude. Vous êtes notre fidèle invité de la librairie francophone. Et vous avez souvent fait des lectures ici, d'ailleurs, je crois.
Hein. Mais moi, j'adore.
Oui, alors c'est parfait. Alors allons-y. Voici un extrait des culs reptiles, lu par Laurent Godet. On envoie la musique et je vous fais signe, Laurent.
Pour les culs reptiles, tout se passait comme si les jours n'étaient que la répétition d'un temps circulaire. Attirant les regards des passants à cause de leur éclat de rire retentissant, ils vivaient dans une sorte d'éternité joyeuse et insouciante. On eût dit qu'ils étaient hors sol, affranchis de toutes les pesanteurs sociales, délestés du poids des contraintes et autres règles communautaires. Les coutumes et les traditions ? Mon cul, ils s'en contrefichaient. Dans ce pays où les fils et les filles d'eux étaient assurés de remplacer leurs parents aux postes importants, rien n'avait de sens. Or, essayer de penser l'insensé était chose abrutissante. Alors, ils se tenaient sur la réserve.
Voilà, Mahamat Saleh Haroun, cet extrait lu par Laurent Godet, c'est vrai qu'ils se tiennent sur la réserve. Parmi ces jeunes, il y a Bourma, qui se tient à l'écart des culs reptiles, lui, mais qui va, lors de la destruction du quartier par le gouvernement, parce qu'on va en arriver là, partir pour la capitale. Il va vivoter, il va faire le culs reptile, lui, pendant 3 mois, et un jour, à la radio, il entend un appel de la Fédération Nationale de Natation qui recrute des nageurs. Or, dans ce pays, peu savent nager. Donc il n'y a pas de candidat, il n'y a pas de piscine non plus, sauf dans un hôtel, et on ne se baigne pas vraiment dans la mer.
Non, pas du tout. On se débrouille comme on peut. C'est un personnage attachant pour moi, parce que malgré cette naïveté, cette candeur, il y a quelque chose qui est que il veut changer sa vie, quoi, son quotidien et tout. Et il se présente en effet à l'appel de la Fédération Nationale de Natation. Et il est le seul, bien entendu. Et on le recrute, et voilà que... On se dit, on va se présenter au JO de Sydney, en fait, en natation. C'est romanesque, en fait. Voilà, quand j'ai lu cette histoire dans un journal...
Oui, parce qu'elle a existé.
Voilà, elle a réellement existé.
Cette histoire que vous racontez, c'est celle d'Eric Moussambani, seul représentant de la Guinée équatoriale au JO de Sydney. Le 20 septembre 2000, ils sont 3 à être alignés pour leur série du 100 mètres nage libre. Une série qui permet aux pays en voie de développement de participer par dérogation, sans qualification. C'est une sorte de cadeau des Jeux Olympiques. Et ces deux concurrents font ensemble un faux départ. On croit déjà une blague, mais ça n'arrive jamais ça. Donc ils sont disqualifiés. Il va se retrouver tout seul face à sa ligne d'eau. Et les juges du comité olympique lui disent de s'élancer. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il s'élance, écoutez.
C'est inédit comme image.
Alors, regardez un petit peu, c'est un style évidemment assez peu académique. Ça vaut son pesant de cacahuète quand même, ce 100 mètres. Alors, il nage la tête hors de l'eau, tout comme un nageur de water polo, c'est...
Mais, non,
on demande s'il va arriver au bout de son 100 mètres. Attention au virage. Attention, il va couler. Est-ce qu'il est arrivé au bout de...
Voilà, tous les commentateurs des télés étrangères éclatent de rire, vous en parlez dans le livre, mais ils vont vite le regretter d'ailleurs, hein, parce qu'il y a eu des témoignages après, parce que face à sa ténacité, c'est un héros, le public l'a acclamé, et toute sa course, tout le monde a rigolé, c'est vrai, parce que c'est humain, hein, on va dire à leur décharge, franchement, ils sont dans un contexte très particulier des JO, ils voient défiler des monstres de compétition, et c'est très tendu, c'est très difficile hein, de commenter une course olympique de natation, et là d'un coup il y a cet événement improbable,
voilà, oui,
mais il est arrivé au bout.
Absolument, c'était un spectacle au sens donc vraiment premier, du sens où on pouvait, à la limite, quand les choses deviennent spectaculaires, on peut les regarder, en fait, il aurait pu se noyer même ce jour-là, c'était, on observait ça comme un spectacle, et ça faisait rire, et c'est après coup qu'on a pris conscience quand même de cette ténacité, de cette espèce de besoin d'exister. Mais à ce moment-là, en fait, dans le roman, le personnage de Bourma se bat non seulement pour lui, mais en fait pour sauver aussi sa copine.
Sa famille, voilà, parce qu'on l'a menacé.
Voilà.
C'est quand on lui dit « tu vas être aligné sur le 100 mètres », il dit « mais ça va pas être possible, je suis incapable d'aller jusqu'à 100 mètres, c'est un marathon pour moi, c'est trop pour moi, je n'y vais pas
voilà. ».
Et là, on lui dit, bon, on le prend par le col, on le menace physiquement, et on va lui dire aussi que sa famille va mourir s'il ne va pas, parce qu'il représente le pays, c'est le seul représentant du pays. Et vous racontez tout ça avec beaucoup d'humour, Mahamat, c'est vraiment magnifique, c'est un livre sublime, on va laisser nos libraires s'exprimer. Avec le Canada, la France et la Suisse, on va commencer par Josiane Letourneau, à Montréal.
Eh bien moi, dès le premier chapitre, je vais vous le dire, je suis tombée complètement amoureuse de ce roman, son ton parfait, cette façon de mettre le drame humain en relief avec un humour, tout en nuances. Franchement, avec sa part d'ombre, de petit et de grand malheur, c'est une histoire qui m'a fait le cadeau d'un absolu plaisir de lecture, tout en réussissant à peindre avec beaucoup d'aplomb, de justesse et de subtilité le monde dans lequel nous vivons.
Thomas Hausser, en France, êtes-vous d'accord?
Oh oui, je suis d'accord. Moi, c'est vraiment mon chouchou de la rentrée littéraire d'hiver. Il y a tous les éléments que j'aime. Il y a un souffle qui vous emporte. Il y a un personnage un peu branque, mais auquel vraiment on s'attache, qui va peut-être connaître la gloire et un destin incroyable. Et puis, ce qui me fait dire que c'est vraiment réussi, c'est bien sûr grâce à votre écriture malicieuse, enjouée et très visuelle. Enfin, moi, ça m'a scotché, j'ai adoré et je recommande très, très chaudement.
Oui, c'est le livre à lire en ce moment, Dominique Bressou. Un pas de mystère, vous êtes aussi du même avec nous.
Absolument, pour moi, c'est un vrai bonheur que ce livre. Un rythme endiablé où certes, le personnage principal patauge tout le long, toujours prêt de toucher le fond, mais quel humour pour décrire ses aventures. Et ça vaut vraiment la peine de se jeter dans la lecture de ce roman comme on plonge dans une mer agitée.
L'écu reptile aux éditions Gallimard. Voilà l'avis de nos libraires. Mahamat Saleh Haroun, un commentaire?
Non, c'est trop en fait. C'est trop,
je sens stoïque.
Pas stoïque, je suis étonné. Je l'ai fait de manière assez humble, tout simplement, et je ne pensais pas que cette histoire-là, en fait, toucherait autant de gens. Et depuis qu'il est sorti, c'est vrai que les retours que j'ai m'étonnent, mais... Ce que dit un des libraires, c'est je l'ai écrit un peu comme un souffle. Enfin, j'ai senti comme
on le ressent ce
quelque
souffle
chose
d'ailleurs.
Comme ça, ouais. Oui, voilà, qui est arrivé un peu comme un acte poétique. Enfin, je parle devant un grand écrivain que j'adore pour avoir lu et avoir même été approché pour adapter La mort du roi de Sangor. Donc,
ah oui, Laurent Godet, qui est là.
Œuvre Laurent Godet. Donc voilà, j'ai juste humblement essayé de parler de ces rêves-là et de ces gens qui, à un moment donné, on peut les voir comme ça avec mépris, mais en réalité,
c'est ça,
ils pensent
ils
rêvent qu'un jour, cette absurdité disparaîtra.
On va lui construire en tout cas une image trafiquée, avec des origines sociales différentes. On lui construit une histoire, en quelque sorte. Ouais. Donc ses parents sont en colère. Et il y aura une phrase de Camus qui va le hanter. C'est sa mère, je crois, qui lui dit ça. Le propre de l'homme est de ne pas servir le mensonge.
Oui.
Et ça tourne en boucle chez lui.
Oui, en fait, là, ça le projette dans une espèce de conscience J'aime bien ce mot qui revient souvent dans le roman, une conscience vertigineuse, c'est-à-dire soudain, alors qu'il a jusque-là cautionné le mensonge pour fabriquer un personnage. On dit qu'il est né au Maroc et qu'il a appris la natation là-bas. Il faut vendre, dire que voilà, c'est pas quelqu'un qui sort de n'importe où. Et quand son père lui dit ça, il se dit c'est pas possible et tout, et il prend conscience qu'il est en train de servir le mensonge.
C'est ça, ouais.
Et là, il entre un peu dans une forme de déprime, malgré le soutien de sa copine, enfin tout ça, il se sent pas bien, il se remet en cause et il décide même de démissionner.
Mais oui, voilà, on va arrêter là. Il va, donc vous l'avez entendu, boucler les 100 mètres devant le monde entier, il devient le symbole de l'esprit olympique, voulu par Pierre de Coubertin, tout le monde l'acclame, mais quand il rentre au pays, en tout cas dans votre roman, c'est le mépris qui l'attend. C'est ce qui s'est passé pour Moussa Mbani ?
Non, Moussa Mbani, non. Il a eu une carrière plutôt fulgurante. Il est devenu directeur de la natation là-bas.
Oui.
Non,
il entraîne les jeunes. Oui, c'est vrai.
Donc, on se demande qui.
Mais il s'est formé, hein. Il s'est formé, je crois. Ouais. Peut-être à Antibes. Vous parlez du centre de formation d'Antibes dans le sud de la France.
Oui.
Et dans le roman, il y a ça. Je crois que Moussa Mbani a été formé là-bas.
Ouais. Il s'est formé pour devenir maintenant s'occuper un peu de l'équipe nationale de natation. Mais là, lui, dans le roman, Bourma revient. Et en effet, c'est un pestiféré, personne ne veut lui parler. Le ministère, en fait, le blacklist, et il n'arrive plus à communiquer avec ceux qui l'ont amené jusqu'à Sydney. Mmh. Et donc, il accepte son sort, il arrive à devenir philosophe un peu, et il retrouve quelque chose dans la cuisine.
Voilà, on va pas tout raconter. Il faut lire ce roman formidable, un livre sur la résistance aussi, sur la façon de réinventer sa vie malgré les épreuves, malgré les faux semblants. C'est un livre sur l'espoir qui montre que les plus sensibles, ceux que l'on croit être les plus faibles, et les rêveurs, ont beaucoup de choses à apporter à ce monde. Merci beaucoup, Mahamat Saleh Haroun.
Merci à vous.
Merci. Les Culs Reptiles est paru donc chez Gallimard, collection Continent Noir. À suivre dans la librairie francophone, une balade en forêt au Canada et Dany Laferrière au musée Grévin avec Charlotte Rampling et Hélène Carrère d'Encausse. Avant cela, voici le nouveau titre de Gaëtan Roussel, en duo avec Alain Souchon.
Les rues comme mes poches sont vides. Les avenues si calmes sont l'air bolide. L'air est plus clair, paraît plus limpide. Personne ne joue, le temps est humide. Rien ne semble plus pareil. Là dans les intérieurs, tout semble sans sommeil. Vu de l'extérieur, où sont les commerces, les glucides et ma monnaie, même timide. J'entends que la vie se vit sous vide. La mienne comme mes poches restent vides. Rien ne semble plus pareil. Là dans les intérieurs, tout semble sans sommeil. Vu de l'extérieur, elle est splendide. Tant de sauver grâce à vous qui sortez courageux, solide. Je voudrais faire un geste, un don rapide. Mais mes poches comme les rues restent vides. Rien ne semble plus pareil. Dans les intérieurs, tout semble sans sommeil. Vu de l'extérieur, rien ne semble plus pareil. Là dans les intérieurs, tout semble sans sommeil. Vu de l'extérieur,
C'est tout nouveau, Gaëtan Roussel et Alain Souchon avec Sans Sommeil. Les coups de cœur et les coups de gueule des libraires, première partie, on enchaîne. Un coup de gueule en Belgique, Déborah Damblon, secouez-nous.
Eh bien, l'autre jour, Emmanuel, dans la librairie, j'entends deux personnes parler d'un livre qu'elles n'ont pas beaucoup aimé. Bon, jusqu'ici, pas de problème, on a le droit.
Oui.
Mais, attendez, il y en a une qui vient à dire du haut, vous voyez, de sa suffisance de très grande lectrice, et elle lance, ça peut sûrement être lu par des ados. Et puis quoi encore? Les ados, ça lit pas des moins bons livres que les vieux, je vous ferai dire. Et puis si c'est mauvais, ben c'est mauvais. Ouais. Et le critère pour être en littérature jeunesse, c'est certainement pas de ne pas être assez bon pour la littérature vieillesse.
Oui.
Et je ne me calme pas, Emmanuel. Je ne me calme pas.
Elle voulait peut-être dire que pour les ados, ça allait parce que c'était un livre léger, facile d'accès. Peut-être
vous voulez
c'était ça.
Aussi que je me fâche sur
non.
vous.
Non, mais voilà, il faut entrer dans les livres doucement et voilà, peut-être que c'était ça.
Non. Quand c'est pas bien, c'est pour les ados.
Non, mais j'ai pas dit ça. Non. Bien sûr que non, les ados. En plus.
Ben voilà, vous êtes
formidable.
D'accord avec moi, comme toujours.
Allez, merci pour ce coup de gueule, Déborah. Allez, un coup de cœur en Suisse, Dominique Bressoux. Calmez-nous parce que là.
D'ailleurs, on est en plein dans les ados, en fait. Un énorme coup de cœur pour Les Nuits d'été de Thomas Flao, qui a eu le prix du roman des romans. Mm-hmm. C'est les romans, dans ce cas-là, le deuxième, c'est les lycéens de Romandie. Et la remise du prix a été retardée d'un an à cause de la pandémie, mais ça vaut vraiment la peine d'en parler. C'est un titre qui fait appel au romantisme, mais c'est un récit très réaliste. C'est la vie de jeunes frontaliers, la quête d'identité de ces jeunes pris entre les désirs de revanche des parents et leur propre liberté de vivre et d'aimer. Un roman qui ne nous épargne rien, mais empreint d'empathie et émaillé d'une très grande douceur.
Et qui pourra plaire aux ados, donc.
Voilà.
Et aux adultes.
Et aux adultes.
Aux éditions de l'Olivier. Merci Dominique.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio Canada.
Radio Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
On part dans les Laurentides au Canada. Bonjour Gabriel Filtoshiba.
Bonjour.
Vous publiez votre roman Sauvagine aux éditions Stock, livre déjà sorti au Canada chez XYZ. On avait fait ensemble une balade en forêt pour parler de ce livre. On va en écouter un large extrait dans un instant. Comment s'est faite cette rencontre avec un éditeur français qui diffuse comme ça largement les livres en Suisse, en Belgique et en France?
Alors, je pense que mon cri du cœur a été entendu et bien évidemment en France avant au Canada. Oui. Alors, je suis très heureuse là de pouvoir compter sur Stock et grâce à tout ce lectorat, maintenant avec mes droits d'auteur, je protège le sommet d'une montagne dans les Laurentides.
Alors, ah oui?
Merci à tous les lecteurs.
Alors, vous vivez toujours dans une maison écolo qui fonctionne à l'énergie solaire?
Non, là, je me suis rapprochée d'un village là, parce que
j'avais
commencé l'école et je voulais qu'elle aille dans la civilisation pour un peu connaître les deux univers, la vie sauvage et la vie citoyenne aussi.
Alors, il y a de plus en plus d'auteurs québécois qui publient leurs livres chez des éditeurs français. J'espère d'ailleurs qu'on y contribue en donnant des idées. Mais quel est l'impact pour vous? Parce que les éditeurs québécois sont distribués pour la plupart outre-Atlantique.
Oui, peut-être, mais c'est énorme comme place qu'on nous donne parce que c'est impossible de vivre de sa plume au Québec avec la population qu'on a, mm-hmm. même si on a beaucoup de lecteurs. Là, quand on s'élargit sur la francophonie, ben ça nous donne un gagne-pain plutôt qu'un hobby. Hein. Alors, je suis très contente de pouvoir écrire à temps plein maintenant et pouvoir offrir à mes lecteurs de nouveaux romans à chaque année.
Bon, on dira à Laurent Godet de lire votre livre. Il adore le Québec, il connaît très bien Montréal. Hein. Oui. On a fait des émissions ensemble là-bas, Laurent.
Absolument, dans le froid.
Dans le froid, oui, c'est ça. Bah là, ils sont sous la neige, hein, là, en ce moment. Gabriel, elle est sous la neige. Quel souvenir, d'ailleurs, vous gardez de notre balade dans cette forêt québécoise? On était sous la neige à ce moment-là.
Oui, je me rappelle du son de nos pas dans la neige, des traces d'animaux.
Bon, on va écouter tout ça. On va partir en forêt avec vous, avec ce reportage réalisé donc au Canada quand votre livre est sorti chez XYZ. Voici un extrait qui évoque votre roman Sauvagine, qui vient donc de sortir chez Stock. Merci beaucoup, Gabriel. Bon week-end au Québec.
Merci, vous aussi.
De la neige tout autour de nous avec des cours d'eau aussi qui sillonnent comme cela cet endroit naturel, cette réserve naturelle, quelques cabanes. Et puis des arbres, des aires de pique-nique pour les promeneurs et beaucoup, beaucoup de neige. Et bonjour Gabrielle Filtoshiba.
Bonjour.
Vous êtes une auteure québécoise qui défend la nature donc et cette région du Kamouraska dans le nord-est, bien après Québec, à 180 km environ. Vous avez publié donc Sauvagine chez XYZ. Votre personnage vit dans une roulotte au milieu de la forêt pour être le plus près possible des animaux qu'elle s'efforce de protéger. Pourquoi cet exil en marge de la société, Gabrielle?
Je pense que c'est nécessaire de s'éloigner des bruits pour se rapprocher des animaux. Et aussi de vivre dans un mode de vie plus simple. Et c'est une belle leçon d'humilité au Québec. Parce que l'hiver peut être très violent.
Alors, attendez, je m'enfonce dans la neige, moi, parce que il y a bien 20 cm. Et voilà, on approche du lac, on a une sorte de petite plage. C'est très étonnant parce que on est au bord de l'eau, mais on ne sait pas quand est-ce que l'eau commence, puisque c'est gelé tout autour. La narratrice est en lutte contre les trappeurs, les braconniers notamment, qui font commerce des fourrures de coyotes. Il y en a beaucoup ici au Canada, des trappeurs. C'est un sujet très sensible, notamment concernant les fourrures des vêtements, des parkas, où il y a de grands militants contre justement cette exploitation.
Oui, ben en fait, moi, je connais pas beaucoup l'industrie de la fourrure en soi, mais j'avais l'impression d'être un témoin privilégié d'un carnage, en fait. Quand je suis arrivée, il y a à peu près 8 ans, dans le Kamouraska, j'entendais les coyotes à tous les soirs. C'était une chorale épeurante au début, puis ça a laissé place finalement à de l'émerveillement. Maintenant, c'est le silence. On ne les entend plus. Alors, j'ai voulu, dans mon roman, raconter un peu l'enquête que j'avais menée pour découvrir qu'est-ce qui se passe avec les coyotes, où sont-ils, qui les trappe, est-ce que c'est trappé légalement ou est-ce que c'est du braconnage? Je pense qu'il y a vraiment une méconnaissance de la nature pour penser qu'on peut, en tant qu'humain, jouer à Dieu, réguler des écosystèmes. Il y a des gens qui se justifient de trapper ou de braconner les coyotes parce qu'ils font de la déprédation.
Hey Gabriel, on va se diriger vers une cabane là, qui est au fond. On va se protéger un peu, une cabane de couleur gris-vert. Dans la neige. Avec,
Il y a des traces de lièvre ici.
Ah oui, des traces de lièvre.
Oui. C'est joli, hein? Les quatre pattes groupées. Boing, boing, boing.
C'est vrai. À un moment dans votre roman, vos personnages, ces deux femmes vont rendre visite à un gros pin centenaire. Elles vont l'enlacer avec leurs bras. Vous le faites, ça?
Oui, je suis allée récemment. Là. C'est drôle que vous m'en parliez parce que c'était vraiment un fantasme. Moi, quand je voyage, je planifie mes voyages en fonction des arbres anciens que je veux visiter. Gros pin, c'est un de nos plus vieux arbres au Québec. Un pin blanc d'environ 450 ans, peut-être même 650. Alors, ça date d'avant la colonisation. Et pour moi, il y a quelque chose de très symbolique là-dedans. Un arbre qui nous précède, nous, les Blancs, sur cette terre.
Ça vous donne envie, quand il y a les arbres, là, de les toucher?
Oui, ben je me retiens parce
allons-y.
Que...
Allons-y, ben non, allons-y.
En face, ici, c'est un érable. Moi, je le reconnais par les taches noires sur l'écorce.
Ah oui, exact.
Oui.
Alors, allons enlacer un érable.
C'est quand même symbolique, on est au Québec, hein,
oui,
on reste
ça.
Dans le thème.
Alors, je laisse commencer.
Oh. Alors, ça, c'est comme si j'étais branchée sur le gros courant.
Attendez, je vais vous rejoindre. Oui, il y a un petit banc juste à côté, il y a plein de neige. Je vais poser mon matériel sur la neige. Attendez, hop, je vais en enlever un petit peu.
Vous allez voir, ça vous
voilà,
même.
Hop. Allons-y, enlaçons l'arbre.
C'est un peu comme avoir un nouveau-né dans les bras, mais là, on a un être ancien.
Ça a un autre son en plus.
Oui.
Comme s'il captait notre voix et qu'il la répercutait dans le micro.
Moi, je me demande toujours comment ils se sentent, les arbres, parce qu'ils vivent des grands changements. Hein, le climat change. Tout à l'heure, on entendait des oies sauvages. Puis c'est étrange parce que c'est vraiment pas le moment. Ils devraient être déjà réfugiés loin. Là.
Il y a un côté très sensuel, très charnel dans la nature. Et dans votre livre aussi, vous le décrivez, ça. Ce rapport à la nature, comme on est en train de le faire. On est collé à un arbre, hein, je précise à ceux qui nous écoutent
on
complètement.
On est vraiment le visage collé sur l'écorce. Mais oui, parce que de vivre dans la nature, ça aiguise les sens. C'est fascinant.
Bon, on va laisser là parce qu'il est un peu froid.
Oui, un peu humide.
Si vous pouvez mettre un manteau la prochaine fois. Et le roman de Gabriel Filtoshiba, Sauvagine, est donc publié chez XYZ au Canada. Et il vient de sortir chez Stock en France, Suisse et Belgique.
La librairie francophone, Emmanuel Guérad.
On va se décoller des arbres avec la chronique des libraires. Deuxième partie avec les coups de gueule et les coups de cœur. Vous avez déjà collé un arbre, Laurent Godet, tiens?
Non.
Vous avez pas avant?
Mais
on va le faire.
J'ai envie maintenant.
Ouais,
ah
bah, je vais vous emmener. Ouais. Un coup de cœur en France, Thomas Hausser. Sans transition.
Oui, sans transition, eh bien, un coup de cœur, un livre de poche policier pour changer un peu, Emmanuel. Il s'agit d'Entre Fauves. C'est écrit par Colin Niel aux éditions du livre de poche, justement. On va suivre un défenseur des animaux, après Gabriel, hein, voilà.
Bah, ça tombe bien,
Ça tombe bien. Qui voit sur Internet la photo d'une jeune femme qui pose un peu élégamment devant un lion qu'elle semble avoir tué, vous savez, dans une sorte de safari. Et ce défenseur des animaux, bah lui, décide de partir en chasse et de lui faire payer. Alors, si vous cherchez un livre qui va vous tenir en haleine, un livre bien construit, bien écrit, qui se passe entre l'Afrique et les Pyrénées, et surtout où le chasseur n'est plus vraiment sûr d'être lui-même chassé, enfin, on ne sait plus, ce livre est fait pour vous.
Entre Fauves, au livre de poche. Merci Thomas. Un coup de gueule au Canada, Josiane Nétourneau, elle est très énervée.
Oui, je suis très énervée parce que j'en ai un petit peu marre de la façon dont les petites librairies sont dépeintes dans les médias, mais surtout en fait concernant une déclaration que le président du groupe Renaud-Bré, Blaise Renaud, a faite. Il était mécontent de le règlement que le gouvernement passe concernant le pass sanitaire qui doit être montré dans les grandes surfaces. Et il a dit, et je cite, « Le gouvernement a mal évalué les impacts de cette politique. Elle favorise les librairies de petite superficie dont l'offre commerciale est restreinte. » Et limité, et ce sont ces deux derniers mots que je trouve absolument inutiles et méprisants.
Oui, en plus on peut commander les livres chez un libraire indépendant.
Oui, donc on a tout. On parle d'offre commerciale, je pense qu'une librairie fait plus que de faire une offre commerciale.
Achetez vos livres chez les libraires indépendants, on en parle régulièrement, n'achetez pas sur les plateformes déjà, commençons par là. Merci Josiane, à suivre Laurent Godet qui acquiesce, il est d'accord avec moi.
Absolument.
je vous engage au passage pour un petit ouvrage inattendu sur le mensonge dans une langue créative inspirée par la francophonie. Restez avec nous, l'orfèvrerie de Laurent Godet, on va entendre ça après le nouveau titre de la chanteuse suisse, Vendredi sur mer.
Mon esprit trop noir, tu sais, me fait perdre espoir. Je n'ai qu'une envie ce soir, et je l'oublierai pour un peu te voir, pour un peu te voir.
Mes envies ne sont que des miroirs de tort. Ne rentre pas trop tard, j'ai peur. Je veux le lac. Dis-moi, tu peux, car je veux retrouver le lac dans tes yeux. Mais dis-moi si tu peux faire de moi une femme. J'en veux à ceux qui s'alarment du jeu. J'ai peur de tout décevoir, de nourrir mes erreurs et un jour y croire, puisque je veux. Je veux le lac. Dis-moi, tu peux, car je veux retrouver le lac dans tes yeux. Mais dis-moi si tu peux.
C'était Vendredi sur mer avec Le Lac.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
Laurent Godet est avec nous pour un recueil de 3 monologues de théâtre paru chez Actes Sud Papier. Laurent, après des romans flamboyants dont Le Soleil d'Escorta pris Goncourt en 2004 et des pièces de théâtre magnifiques, pleines de messages et d'ouverture sur le monde, vous publiez des textes exigeants, pas toujours faciles à comprendre tout de suite, hein, je vous avoue. Vous dites en introduction avoir voulu une langue créolisée inspirée par vos voyages à travers la francophonie et vous évoquez, je cite, les langues françaises de pluie, de bière, de gare vide et d'accent rugueux. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ben oui, j'ai fait ce constat qu'au gré de mes voyages, c'est vrai qu'on entend les langues françaises, que ce soit en Haïti, en Belgique, à Montréal, et il y a un vrai plaisir de cette étrangeté en fait, parce qu'à la fois on comprend la syntaxe, la structure de la phrase, mais comme il nous manque des mots, il y a cette espèce de jeu presque de dire, ben en fait je comprends pas ce qui vient de m'être dit. Et je m'étais dit au fond, est-ce que ça ne crée pas un espace d'écriture, ces langues-là, toutes mêlées, est-ce qu'on peut pas piocher dedans.
C'est ce que vous avez fait là.
Donc c'est ce que j'ai essayé de faire, oui, absolument.
Alors dans un premier monologue, nommé Grand Menteur, il est question du mensonge. C'est un personnage à la fin de sa vie, face à une infirmière, qui raconte avoir composé sa vie par ses voyages et par ses inventions. Car sa mère lui a dit, le monde est trop petit pour toi. C'est quoi un monde trop petit pour soi?
Ben, je pense que c'est ce que peuvent ressentir tous les écrivains, à dire vrai. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on écrit, c'est que le monde est trop petit et qu'on a envie à la fois de l'embrasser plus largement qu'il ne nous est offert, on a envie de l'explorer, on a envie de l'élargir soi-même. Moi, j'ai beaucoup ce sentiment-là avec mon écriture d'une manière générale, d'agrandir mon monde, d'arpenter des terres un peu infinies que je décide. Donc, mon menteur, il invente sa vie. C'est de la faconde, en fait. Il y a un côté un peu bravache comme ça. C'est le mensonge généreux. C'est le mensonge
généreux.
Qui déploie des histoires.
Il se raconte des histoires.
Il se raconte des histoires, il les raconte aux autres, et, et ceux qui veulent pas le croire, tant pis, mais les autres sont invités du coup à embarquer dans un espèce de voyage au fond.
Mais par le mensonge, Laurent Godet, on vit mieux ou on se berce d'illusions dangereuses?
Mais je pense qu'il y a plusieurs mensonges. Il y a le mensonge effectivement qui détruit quelque chose ou qui cache de manière, avec un but, et puis il y a le mensonge encore un peu plus généreux qui est celui juste de... En fait, qui est une sorte de convivialité, c'est-à-dire il faut faire fi et il faut faire son deuil du rapport à la vérité. C'est pas ça le jeu.
On s'arrange avec la vérité?
Mais c'est-à-dire que c'est même pas le problème, en fait. Le problème, c'est juste, est-ce que vous voulez bien que je vous invite dans le plaisir de raconter, en fait? Quand vous êtes sur un port dans certaines villes du Sud, si vous restez fixé sur la question de la vérité, vous allez passer votre temps à dire, mais il raconte n'importe quoi. Mais c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de suivre le récit en disant, mais allez, jusqu'où il est capable de m'emmener?
Donc vous racontez des histoires vous-même.
Ah ben moi je fais que ça depuis que j'ai commencé à travailler.
Non mais ça d'accord, dans vos livres. Mais dans
mais
la vie.
Mais il y a un lien quand même.
Le déploiement... Mais vous êtes un menteur ou pas Laurent?
Est-ce que c'est une bonne question.
M'avez-vous déjà raconté des cracks comme on dit? Parce qu'on se connaît depuis tant d'années maintenant.
Ouais. Je vais être honnête, je crois que malheureusement je ne suis pas menteur. Mais j'adorerais l'être.
Ça me rassure, j'ai eu peur.
Ouais. Bon, ça n'a aucune importance. Les romanciers ont le droit de l'être.
Oui, sauf que votre personnage, lui, dans sa vie... Il ne veut pas d'une vie rangée. Il dira même vouloir plein de vies différentes. Être riche et pauvre, ça c'est faisable, enfin surtout pauvre. Être homme et femme, être blanc et noir, mais ça c'est impossible. Personne ne peut vivre ça, sauf à s'inventer des histoires.
Je sais pas, moi j'ai un des plus beaux compliments qu'on m'ait fait, c'est un jour où quelqu'un m'a dit « mais je croyais que vous étiez noir par rapport à l'écriture de la mort du roi de Sangor ». J'ai trouvé que c'était magnifique, et c'est peut-être vrai d'ailleurs. Qui sait, à l'intérieur. Donc, et puis c'est une manière de souligner l'idée que c'est toujours pareil. Moi, j'ai un problème avec l'unicité. On va vivre qu'une seule vie, qu'une seule petite vie. Voilà,
c'est comme ça. Mais ça, c'est votre grand problème.
Moi, j'arrive pas à m'y résoudre.
Mais oui, c'est votre problème. Vous avez un problème avec l'âge.
Les démons.
Et avec le fait que vous n'aurez pas multiples vies, je suis désolé de vous le dire, Laurent Godet, c'est pas possible.
C'est insupportable, d'ailleurs. Mais j'ai mis un dispositif en place qui devrait me permettre au moins d'essayer d'approcher d'autres choses.
Un dispositif en place, c'est-à-dire
l'écriture.
Ah oui,
l'écriture. À partir du moment où vous écrivez une pièce de théâtre et un de vos personnages est une femme, je suis désolé, mais il y a quelque chose de l'ordre de la projection, du fantasme, de la recherche d'une empathie qui fait que vous vous déplacez. Et ça, c'est quand même assez... Alors, je ne dis pas que ça vaut pour expérience. Je n'ai malheureusement jamais vécu pleinement cette expérience. Mais quand même, chercher les mots qu'un personnage féminin pourrait dire, essayer d'être dans la logique de son personnage, c'est quand même jouer avec cette frontière qui nous a imposée dans la vie et qu'on fait un peu éclater dans l'écriture.
Vous évoquez aussi cette notion... Non, je ne suis pas concerné du tout. On regarde avec passion. On va aller avec nos libraires, Laurent. La Suisse, la Belgique ou le Canada, on commence par qui?
Le Canada.
Le Canada, oui. Fan du Canada. Josiane Letourneau. Ne décevez pas Laurent Godet.
Je vais essayer, je vais faire tout ce que je peux. Alors, ils ont beau être brefs, vos monologues, je trouve qu'ils ont quelque chose de fondamental et d'ambitieux. Ils évoquent l'amour, la vie, la mort. Ils exigent notre écoute et revendiquent, au-delà de la fabrication du mensonge et de l'illusion théâtrale, une immortalité, je trouve. Ils font partie de ces textes qui méritent 2, 3, 10 lectures, tant l'écriture et tout ce qu'elle déploie me semble donner vie à quelque chose de bien plus vaste que les mots.
Mmh, la Belgique, Déborah Damblon.
Mais je trouve que lire vos 3 monologues, Monsieur Godet, les lire à la suite, c'est à la fois une grande leçon de théâtre et puis une leçon d'écriture. Et jamais peut-être je n'ai mesuré, mais à ce point, l'importance du niveau de langue pour faire vivre les personnages. Et puis, mais comme toujours, vous réussissez le pari qui semble totalement impossible d'avoir une langue très écrite et en même temps de raconter des histoires mais pleines de chair auxquelles on croit. Il n'y a que vous pour faire ça.
Mmh. Elle a sa librairie dans un théâtre, hein, maintenant, Déborah, donc c'est de quoi elle parle. Dominique Bressou, en Suisse, vous avez détesté cet ouvrage de Laurent Godet.
Ah mais pas du tout. Pas du tout. Non. Mais
je vais lui faire peur un peu, parce qu'il est un peu ici chez lui, donc je raconte des histoires, quoi. Je m'invente des choses.
Un grand menteur, quoi.
Oui, c'est ça.
C'est toujours difficile, à mon avis, de lire une pièce de théâtre plutôt que d'y assister. L'imaginaire de représentation de l'action, ça passe alors forcément par la lecture à voix haute des répliques. Et pour ces 3 monologues, un vrai bonheur de les déclamer. Enfin, pour moi, peut-être moins pour mes voisins. On ressent alors le rythme envoûtant, la surprise des mots tordus dans tous les sens. On se prend vite au jeu et on s'y croit. C'est un régal.
Et oui, c'est toujours très bien écrit, c'est toujours très bien fait. Laurent Godet est un grand auteur. Dans ses textes, Laurent, plus qu'un appel à l'hédonisme, cette recherche du plaisir en rejetant les souffrances, c'est plutôt une ode au rêve. Seuls les rêveurs vivent une vie épanouissante, vous croyez en cela ?
Je crois que ça fait partie de la beauté et de la dignité humaine de proposer autre chose que la réalité. Moi, je suis toujours un peu fâché avec la réalité parce que on peut aussi penser que la vie, ça n'est pas que la succession d'expériences du réel qu'on va faire. La vie, c'est aussi le rêve, c'est aussi les désirs, c'est les fantasmes, c'est l'inconscient, c'est toutes ces choses qui nous constituent et qu'on ne sait pas mettre dans le réel. Or, quand on écrit quand même beaucoup avec tout ça. Mmh. C'est une manière de...
Oui. Le foisonnement des vies. C'est ça?
Oui.
Votre personnage s'est nourri de ça dans le 2e monologue. Il y a cette dame de la gare centrale, on pense évidemment à la gare de Montréal, la mariée gare centrale, elle est remplie comme ça du spectacle de la gare, comme si elle s'était construite et assemblée par le destin des autres. Elle a puisé en chacun d'eux.
Alors, le 2e texte, effectivement, c'est un personnage féminin qui ferait plutôt partie des gens qui n'ont pas d'histoire, en tout cas, auxquels on ne prête pas d'histoire et qui n'ont jamais osé avoir une histoire. Je pense qu'on a tous une longue phrase en nous et elle, on la prend le jour où elle va sortir cette phrase-là. Et effectivement, donc, elle quitte son village, elle boule sa maison, elle part vers la grande ville et elle arrive dans ce lieu dont elle découvre que c'est le sien, ça va être le sien, c'est-à-dire vivre dans cette gare, au milieu du tumulte, au milieu des gens qui passent, représente pour elle, au fond, quelque chose qui la nourrit, qui est juste. Et finalement, la quête pour chacun d'entre nous, alors, de manière peut-être moins spectaculaire que ma mariée gare centrale, mais la quête de l'endroit où ce sera juste, je crois que c'est une belle recherche.
Oui. On a tous un lieu où on est bien, il faut juste le trouver.
Voilà.
Ouais. Ouais. Vous êtes bien où, vous ?
Moi, je suis bien en Italie, je crois.
Ah oui ?
Oui. Ouais.
Et la notion d'entre-deux, vous l'avez vécu, ça aussi ? Dans le monologue Fille-Fiston, il y a ce personnage qui n'arrive pas à se déterminer. Alors, au-delà de la sexualité et du genre, parce qu'il en est question quand même, il est entre deux eaux, comme ça. Être tout la fois, ce serait son idéal. Mais là encore, comme grand menteur, il n'y arrive pas.
Moi, je trouve réducteur et faux cette injonction qui nous est faite d'avoir sans cesse à choisir, en fait. Et je ne parle pas uniquement du genre ou de la sexualité. D'une manière plus générale, la question de l'identité se place toujours sous le signe du choix et donc de la réduction. Or, moi, il me semble, pour les plongées que je fais dans l'écriture par rapport à l'être humain, par rapport à essayer de saisir quelque chose d'un personnage, il me semble que ce qui est le plus frappant, bien au contraire, c'est à quel point chacun d'entre nous est sans cesse pluriel, sans cesse dans parfois l'ambivalence, parfois dans la pluralité, la contradiction est humaine. Moi, je suis en permanence face à mes contradictions, et au fond, elles sont riches. Qui peut dire, sans que ce soit absolument terrifiant, qu'il est simplement une chose, un monolithe comme ça, moi ça me fait peur.
Oui, on a compris.
Voilà. Ouais.
Ça c'est. Alors je m'arrête. Non, mais on a compris ça depuis tout à l'heure, parce que c'est vrai que ça vous angoisse.
Voilà, ça, ça et d'autres choses, oui. Ouais. Non, mais ce sont des textes joyeux.
On fera une émission sur vos angoisses un jour.
Non, ça n'a aucun intérêt. Épargnons aux auditeurs cette chose-là. Non, non, mais ce sont des textes joyeux parce que j'essaye, enfin, je les voudrais comme tels, j'essaye de.
Oui, il y a de l'humour, il y a beaucoup d'humour.
Que ce soit à chaque fois aussi une sorte de célébration de la vie, au fond.
Bon, célébrer la vie avec Laurent Godet, il a une œuvre magistrale. Vraiment, il y a des livres incroyables hein, que j'ai conseillés souvent à la radio comme à la télévision. Merci beaucoup, Laurent Godet.
Merci, Laurent.
Merci. Grand Menteur, trois monologues est paru aux éditions Actes Sud Papier.
La librairie francophone, Emmanuel Queyrade.
Et pour conclure cette émission, on vous emmène au musée Grévin à Paris. Dany Laferrière de l'Académie française a inauguré sa statue de cire cette semaine. Nous y étions avec une foule d'invités et de personnalités comme Hélène Carrère-Dancos, secrétaire perpétuelle de l'Académie française, la grande comédienne Charlotte Rampling, vue récemment dans le film Dune, et bien sûr notre fidèle Dany Laferrière, immortel et chroniqueur invité régulier de la librairie francophone, reportage in situ. Juste une petite réaction par rapport à Dany Laferrière au musée Grévin.
Bah, je suis enchantée de tout parce que j'adore Dany Laferrière. Voilà.
Ça, je sais, oui. On a fait des émissions ensemble.
Mérite tout.
Alors, c'est un académicien. Il n'y en a pas eu beaucoup au musée Grévin. Vous le prenez avec humour ou avec sérieux?
Bah, je trouve ça charmant, moi. C'est très, très bien. Il y a deux immortalités, la fausse, la nôtre, et puis celle-là. Voilà.
Ça va maintenir l'immortalité, vous pensez, une statue de cire?
Écoutez. C'est l'immortalité, la vraie. Alors.
Et la francophonie est représentée, je sais que vous y tenez.
Ça, c'est très bien. Voilà.
Merci, Madame Carré-Bancos. Merci. Charlotte Rampling, vous avez dit, Dany Laferrière, je vais veiller sur toi.
Oui, parce que moi, je suis cachée ici. Je ne sais pas où je suis, mais je suis cachée, voilà.
Et comment ça se fait que vous êtes cachée?
Bah, parce que c'était... pas très bon. Donc ils m'ont caché.
C'est vrai. Ouais. De votre avis, c'est ça? C'est vous qui avez obligé à cacher la statue?
Oui, mais on ne peut pas. C'était il y a très longtemps. Et il faut donner la place aux autres. Voilà.
Alors vous l'avez connu à Montréal, Dany Laferrière. Ouais. C'est devenu un ami. Qu'est-ce que vous aimez chez lui dans son œuvre?
C'est quelqu'un qui sait comment parler au monde. Voilà.
Comme vous au cinéma, vous avez su parler au monde aussi.
Moi, c'est gentil peut-être.
Non, mais c'est vrai.
Peut-être c'est pour ça qu'on est amis. Ouais. Il y a une sensibilité dans Dany qui est très particulière, que j'ai trouvé d'ailleurs chez les Haïtiens. Il y a quelque chose de très spirituel dans ces gens-là. Ouais.
Et un humanisme que vous portez aussi, vous retrouvez sur ce terrain-là.
Oui, tout à fait. Ouais. Donc, cette forme de partage est rare. Donc, j'étais ravie de ce qu'on a fait, le film Vers le Sud, qui est extrait de ces monologues en plus grand de La chair du maître et deux autres. Je trouve que le monde des écrivains me fascine de toute façon et là j'ai trouvé un véritable ami.
Bon, il va falloir ressortir votre statut, Charlotte.
Oui, je vais peut-être faire une enquête puisque je suis ici.
Oui,
peut-être
c'est ça.
Le trouver, parce que maintenant que le statut va veiller sur Dany Laferrière,
il faut qu'elle soit là.
Voilà. Non, elle va se cacher, elle va rester cachée, mais il faut que je sache quand même où elle est pour que je puisse envoyer les ondes.
Voilà. Et voilà. On pourrait vous mettre à côté, en plus.
Voilà. Hein, yes. Oui. Oui.
Merci, Charlotte Rampling.
Merci.
Merci beaucoup. Merci. Au revoir.
J'ai visité le musée de cire.
Donc le champagne que vous m'offrez là ne doit pas voir la lumière, c'est ce qu'on m'a dit.
En fait, il faut éviter la lumière effectivement pour le champagne puisque la lumière donne un mauvais goût en fait au champagne de façon générale. Donc il vaut mieux le laisser tranquillement en cave et puis le jour où vous voulez le déguster, vous le mettez, il accompagnera toutes les célébrations de pleine lumière.
Vous avez dit comme l'écrivain.
Voilà. L'écrivain est dans l'ombre le temps d'écrire, de se préparer et puis une fois qu'il est prêt, il va dans la lumière pour se montrer.
Et la lecture, c'est une multitude de bulles qui nous éclatent au cerveau.
Oh, formidable.
C'est la première fois que dans la librairie francophone, on a deux Dany Laferrière, avec en plus un magnum de champagne d'une très grande
Jéroboam.
Gérard Bohème, oui, exactement. Oui, c'est encore plus grand. Comment ça va, Daniel Ferrier?
Ça va, je suis très heureux d'être là. Et oui, j'ai l'impression d'entrer aussi dans cette académie populaire. Parce que c'est des gens qu'on ne connaît pas qui arrivent, qui viennent de partout et qui sont de toutes les cultures, de tous les désirs. Et je vais les attendre ici avec le plaisir du travail à la chaîne, c'est-à-dire pendant que j'écris chez moi, eh bien, ce personnage sera en train de lire et de causer avec les visiteurs.
Alors, il y avait une statue à Montréal. Nos auditeurs de Radio-Canada ont connu peut-être cette statue au musée Grévin qui a malheureusement fermé en septembre à cause du Covid. Donc là, du coup, vous êtes à Paris. Qu'est-ce qu'elle est devenue, la statue de Montréal, d'ailleurs ?
Elle est là.
Elle est là, d'accord.
Elle est là. Elle est un peu retravaillée sur la tête et tout ça. On a habillé, on a simplement changé la chemise. Les tennis rouges.
Les baskets rouges. Ouais.
Les baskets rouges sont nouveaux, mais la statue est là, c'est-à-dire l'âme. Elle a été faite à Grévin ici.
Alors la statue tient un livre de Borges. Pourquoi ce livre-là ? Alors je sais, vous en avez souvent parlé dans la librairie francophone hein, de Borges, mais là, vous avez choisi, vous avez dit peut-être qu'on va changer tous les mois. C'est une bonne idée d'ailleurs, ça.
Oui, tout à fait. Et c'est fiction de Borges, et c'est un livre, c'est le premier de lui. Que j'ai lu, j'étais allé à une librairie à Montréal, la librairie Québec-Amérique, j'ai trouvé ce livre, je n'aimais pas du tout le titre, fiction, ça m'avait l'air un peu prétentieux, je ne connaissais pas l'auteur, Jorge-Louis Borges, fiction, et un peu trop postmoderne pour moi, et finalement je l'ai ouvert, j'ai lu la première nouvelle et j'ai été conquis, et ça fait peut-être près de 40 ans que je lis Borges au moins une fois par jour.
Alors pour terminer, qu'est-ce qu'il pourrait dire, qu'est-ce que cette statue pourrait dire à la librairie francophone, Dany ? Vous qui êtes notre chroniqueur de luxe, comme je dis souvent.
Eh bien, merci. Cette statue pourrait dire que sûrement, il va croiser beaucoup de lecteurs de la librairie francophone au musée Grévin, et pas seulement ceux qui sont en France, mais ceux qui viennent d'ailleurs, et ceux qui viennent aussi de province, ceux qui viennent de Belgique, de Londres, du Sénégal, et leur dire la même chose. Continuez à lire. Et c'est la seule chose qui nous tient. L'idée de cette curiosité de la part de l'être humain, de vouloir savoir dans les livres ce qu'il voit dehors, et c'est-à-dire de voir doublement. Et c'est l'idée qui a conduit Grévin à faire de moi deux personnes.
On vous laisse avec tous les invités ici. Il y a beaucoup de monde ici. Merci, Dany.
Merci, et puis merci pour la librairie francophone qui m'a suivi jusqu'ici, qui me suit partout.
Partout.
Que ce soit en Suisse, en Belgique, au Québec ou ailleurs.
Même à Grévin.
Voilà. Même à Grévin. Même à Grévin. Oui, bonjour.
On prend une photo avec moi.
Avec plaisir. Non, vous allez au milieu.
Dany Laferrière, au musée Grévin à Paris, c'est à découvrir dès aujourd'hui. Il vient de publier une nouvelle édition de son roman « Cette grenade dans la main du jeune nègre est-elle une arme ou un fruit ?» C'est chez Zulma. Avant de conclure, on écoute le son de l'outre-mer avec le célèbre artiste guyanais Chris Combette et un extrait de Bat.
Pour soulager la peine et manquer baille la voix, qu'on s'y au bas ma chaîne, côté tambour bel air, qui guérit pas moins force, côté les répondait, pour pimenter la sauce, moi envie de coller, côté son cas descend, et si soleil levé, cabanan qui attend. Cavalier, cavalier, calendrier ma grâce là, Marie la valière. Nous qu'elle m'a dit fait swear stupid mistake stupid mistake my daddy bet tu tina mysterian c'est la médica tu peux tu me dis tu que tu me bow c'est la belle stay c'est la belle en qui voit lundi on me mardi tri me mercredi cravaché j'ai dit forcé vendredi
C'était un extrait de Bat, le nouveau titre de Chris Combette, originaire de la Guyane. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la réalisation, David Leprince avec Guillaume Roux. À la rédaction, Jean-Philippe Véret et Christophe Magère de France Inter avec les équipes de la RTS, de la RTBF et de Radio-Canada. Thierry Dupin à la prog musicale. La semaine prochaine, le retour de Gilles Kaplan, non pas en musique, mais avec un livre, entre autres. Merci pour votre fidélité. Bon week-end, bonne semaine à tous.